pas vu il y a longtemps. Notre sœur Raphaël était partie en vacances, elle est revenue. Déborah, qui, la dernière fois que je l'avais vue, elle était enceinte, maintenant elle vit avec un bébé. Quelle grâce! Nous bénissons le Seigneur pour tous ces événements et nous bénissons le Seigneur pour. Et je vois également ma sœur Rebecca, il y a une semaine, elle était mariée. Donc nous sommes vraiment dans la joie de voir que notre Dieu continue de faire de grandes choses et surtout en nous. Soyez encore la bienvenue dans la maison de l'Éternel, nous sommes bénis. Ça nous fait plaisir de voir. On connaissait bien Rebecca, mais on ne savait pas la maman qui était. Maintenant, aujourd'hui, nous la connaissons, c'est une joie. Et nous bénissons le Seigneur parce que pendant les vacances, il nous faut toujours continuer à chercher la face de Dieu. Essayer de comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour nous, parce que Dieu a un projet pour nous. Et j'espère que quand nous chantons ce chant, Jésus soit le centre de ma vie, nous savons l'impact que ça a au-delà de nous, dans notre vie, dans notre entourage, dans nos familles. Nous devons toujours invoquer ce Dieu, invoquer le Seigneur qui soit le centre de nos vies. Et à propos, je voudrais demander à tout le monde qui dise à son voisin, Jésus soit le centre de ta vie. Parce qu'en fait, quand Jésus est le centre de notre vie, c'est lui qui contrôle, comme disait tout à l'heure, même la barque. C'est lui qui sait où est notre bénédiction. C'est lui qui sait où est notre projet, son projet qu'il a formulé pour nous. Et c'est lui qui sait comment on peut y arriver. Et ce matin, je bénis le Seigneur de nous avoir renouvelé sa grâce, sa bonté, son amour. Et nous pouvons encore contempler les merveilles de sa gloire au travers de tout ce que nous voyons. Le prophète Jérémie disait dans les Lamentations, quand je pense à ma détresse et à ma misère et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je peux repenser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. La fidélité de Dieu est grande. Et ce matin, je voulais particulièrement partager un sujet avec vous sur les épreuves. C'est vrai que nous croyons que quand on choisit de suivre Dieu, que la vie, c'est un long fleuve tranquille, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, mais Dieu fait lever le soleil pour les bons comme pour les méchants. Il y a des épreuves pour les bons comme pour les méchants. Mais la grâce que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est que Jésus avait souffert. Jésus a traversé, a passé les épreuves. Il a vaincu. Et s'il a vaincu, nous vaincrons. Amen. Nous devons avoir au loin que nous avons la victoire, quelles que soient les épreuves. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Ce matin, nous allons voir d'où viennent les épreuves. D'où viennent les épreuves? Elles viennent de trois sources différentes, selon les origines. Nous allons chercher à travers la parole de Dieu comment adapter nos prières pour tenir ferme. Donc, les épreuves, pour un enfant de Dieu, c'est un passage obligé. Aujourd'hui, peut-être que tu es là ce matin, tu es venu parce que tu es dit, je suis fatigué. Ce matin, tu es venu parce que tu es dit que je suis malade depuis longtemps.
Ce matin, tu es venu parce que tu as dit, oui, j'ai un projet, mais depuis le temps, je ne vois pas le bout du tunnel. Mais tu es désespéré, désemparé. Mais je voulais juste te rassurer ce matin que si Jésus est le centre de ta vie, c'est que c'est lui qui va mener tout jusqu'au bout. Et au bout, il y aura la victoire. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans la parole de Dieu. Dans 1 Pierre 4, verset 12, verset 16, je lis la parole de Dieu. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaît. Et oui, il y a la fournaise dans nos vies, qui est en train de nous éprouver. Et si vous êtes outragé par le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou comme Saint-Jérôme, dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, qu'il n'ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Père très saint, je te glorifie ce matin, parce que c'est toi qui nous as appelés dans ta maison. Je te glorifie ce matin parce que tu veux nous parler ce matin. Je te glorifie parce que c'est toi qui as permis que nous venions dans ta maison. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, parce que je sais que dans la maison de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant t'a préparé une parole pour moi. Tu as préparé une parole pour ma sœur. Tu as préparé une parole pour mon frère. Afin que sortir de ici, qu'il ne soit pas tel qu'il était rentré. Et que Dieu, toi seul, puisse prendre le contrôle de sa vie. Que le sang de l'agneau qui a coulé à la croix de Golgotha nous purifie, nous sanctifie. Que ce sang nous justifie. Que ce sang qui nous a rachetés puisse nous laver pour que nous soyons dignes. Juste devant la face de Dieu, devant ceux qui nous accusent, jour et nuit. Mais nous savons que le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans la vérité, dans la lumière de la parole de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, je m'abaisse que toi tu augmentes, que tu prennes la place et que tu parles. Et d'où viennent les souffrances, les épreuves? Les épreuves qui nous arrivent, c'est vrai, je dirais que elles nous viennent de trois sources différentes. Il y a les épreuves qui viennent de l'adversaire qui nous appelle le malin, l'adversaire qui est Satan, qui est le diable. Et son but principal dans nos vies, c'est nous faire du mal. Donc, les épreuves peuvent survenir de l'adversaire qui s'appelle Satan. Dans les différents noms qui lui sont attribués et qui sont révélateurs de ses intentions à notre égard, nous avons le nom de l'adversaire. Dans 2 Thessaloniciens 2, 4, il est appelé l'adversaire. Dans le Nouveau Testament, 12 fois pratiquement, il est appelé le malin. Et dans Apocalypse 12, 2, il est appelé l'accusateur de nos frères. Avec ces démons, parce que c'est une organisation bien hiérarchisée, Satan est en activité depuis la création. Et ses intentions, c'est
nous faire du mal. Faire du mal à la créature divine. Il se venge sur celui qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il se venge sur nous. Lui qui n'a pas connu l'amour, lui qui ne connaît pas l'amour, lui qui a coupé la haine, son projet, c'est détruire. Et il essaie de défigurer l'image de Dieu en l'homme. Dans Apocalypse 12, nous voyons qu'il est animé d'une grande fureur. Il est descendu. Ne croyez pas qu'il va vous laisser. Non, non, non. Il ne peut pas vous laisser parce qu'ils savent qu'il y a un projet de Dieu au-dedans de nous. Et s'il y a un projet au-dedans de nous, le diable fera tout pour juste le freiner, quoi, je dirais. Juste le freiner parce que le projet de Dieu se réalise toujours. Il a été vaincu. Donc, son but principal sera de nous faire du mal. Son but principal sera de nous faire du mal. Il est vraiment le PDG d'une entreprise de démolition de l'œuvre de Dieu. C'est vraiment le PDG. Il est là. Son but principal, sa société, c'est détruire les enfants de Dieu. Et il se fait plaisir d'attaquer l'Église. Il se fait un malin plaisir. Le malin se fait un malin plaisir pour détruire l'Église de Dieu. Et il a des cibles. Mais je crois que la cible, peut-être la première que je vois, sa cible favorite, c'est le couple. Parce qu'il sait, quand deux personnes sont réunies et ils prient ensemble, ils demandent quelque chose, Dieu le leur accorde. Et c'est pourquoi Satan, quand il voit un couple, il viendra pour saboter. Mais bien aimé, il faut connaître en fait les desseins du diable pour pouvoir bien se prémunir, pour bien se préparer. Parce que si on ne sait pas, tout va en vrille, nous perdons tout. Satan, il est là pour détruire. Il est là pour détruire. Et nous pouvons voir également dans Apocalypse 2:10 où il y a des lettres qui ont été postées pour des églises, notamment l'église de Smyrne, où il dit « Ne crains pas que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne. » Satan a un plan. Même si les temps sont définis quelque temps, mais pendant ces temps, il va saccager. Il ne va pas nous laisser tranquilles. Là, à l'église de Smyrne, il dit 10 jours. Et venez pendant 10 jours. Quand vous êtes éprouvés, vous pouvez détaler, ça c'est sûr. Hein. Chacun peut prendre la tangente. Donc, faisons attention. Le plan, il est arrêté. Le diable a arrêté son plan. Mais nous devons résister. Nous serons éprouvés jusqu'au sang. Mais cependant, nous savons également que Satan fait une œuvre qui le trompe parce qu'il sait qu'il a été vaincu. Et cette œuvre se retourne contre lui-même. Bon, je ne dirais pas qu'il est bête, non. Il est très intelligent. Parce qu'en fait, il sait pourquoi il le fait. Partout dans la Bible, on le trouve en guerrier impitoyable. Le lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il cherche. Il ne se lassera pas. Jour et nuit, il cherche qui dévorer. Donc, mes bien-aimés, nous devons nous accrocher au Seigneur parce que nous savons que si Jésus est le centre, c'est lui qui combat pour nous. Amen. 1 Pierre 5, 8 nous dit, soyez sobres, résistez, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévore. Oui, Satan a une œuvre qui le trompe. Pourquoi? Parce qu'en fait, en fin de compte, quand il le fait, il sait qu'il y a un projet de Dieu au-dedans de nous. Et qu'est-ce qu'il fait? Il précipite juste la gloire de Dieu. Parce que Satan, en combattant Jésus,
Il savait. Il précipitait juste sa gloire, mais Jésus devait montrer aux yeux du monde la gloire de son Père. Dès la naissance, jusqu'à la croix, la mort et la résurrection de Jésus étaient en fait là programmés pour que Dieu puisse manifester sa gloire. Donc, en fait, nous compte tout ce que le diable programmait dans son logiciel, en fait, n'était juste que pour la gloire de Dieu, en fait. Et c'est de là où nous devons résister. Et bien, mais quand nous regardons aussi l'histoire qui s'est passée avec Pharaon, qui est pratiquement, qui représentait Satan sur terre, il a fait précipiter la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, quand nous regardons son programme, quand nous regardons ses intentions, quand nous regardons ce qu'il avait préparé, il laisse partir les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu arrivent devant la mer Rouge et commencent à traverser. Et il envoie, c'est suppos, il envoie ses militaires pour venir les détruire. En fin de compte, il ne savait pas que tout concourt au bien de ce qu'est Dieu. Dieu avait un projet en fin de compte. Il voulait faire éclater sa gloire. Les enfants de Dieu rentrent. Dieu ouvre la mer Rouge. Les enfants de Dieu passent jusqu'au dernier. Quand le dernier traverse la mer Rouge, Pharaon rentre avec son armée. Et quand il rentre avec son armée, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme la mer Rouge. Et la gloire de Dieu n'a fait qu'éclater. En fin de compte, le diable, c'est pas de sa faute. Il a été vaincu. Et c'est pourquoi nous devons également laisser Jésus être le centre de notre vie. Il y a une histoire également dans le livre de Juges que nous voyons qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Aman qui avait programmé de détruire les enfants d'Israël. Il a programmé, il a fait son plan. Il a programmé même pendre Mardoché qui était l'oncle d'Esther. Vous le lirez, c'est une belle histoire. Il avait tout programmé. Mais ce qu'il avait programmé s'est retourné contre lui, finalement. Parce qu'en fin de compte, là où il avait mis le bois où on devait pendre Mardoché, c'est lui qui a été précipité. On l'a pendu. Là où on devait tuer les Juifs, on a tué les ennemis. Donc c'est pour dire qu'en fin de compte, tout ce qu'il fait se retourne contre lui-même. Nous devons prendre garde. Par ses moqueries, sa haine, la moquerie de Satan et sa haine, tout ce qui vous fait croire, tout ce qui vous fait souffrir, en fait, c'est juste pour que la gloire de Dieu se manifeste dans notre vie. Amen. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, je disais tantôt. Ouais, quand nous sommes attaqués, la source, c'est vrai, peut provenir du diable. Mais la source peut provenir aussi de la méchanceté des hommes. C'est la deuxième cause de nos difficultés. La deuxième cause de nos épreuves. La source peut provenir de l'homme. Les pièges tendus par les hommes. Ne voyons-nous pas dans nous. Dans notre travail, là où nous travaillons. C'est évident. les hommes nous tombent des pièges. L'homme manipulé par Satan ou par sa propre chair a pour but de nous faire du mal. Parfois, les épreuves, c'est les humains, c'est les hommes qui sont à côté de nous qui les tombent. Et Paul disait, en parlant de son ministère, dans 2 Corinthiens 11, 23, 27, Je le suis, ministre au Christ, plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la ville, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les feux, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur les mers, en péril parmi les faux frères. Et bien sûr, il peut y avoir aussi des faux frères. Dans l'église, il peut y avoir des faux frères. Parce qu'ils ont des motifs. Ils ont des projets. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Vous voyez que les épreuves peuvent provenir des autres. Mais n'accordons pas trop d'importance là-dessus. Ça viendra. Malheur par qui le standard arrive. Ça arrivera, c'est sûr. Il faut résister, prendre garde. Paul nous montre qu'il y a eu des épreuves. Mais ces épreuves étaient dues à l'autre. Et nous voyons également qu'il y a beaucoup de psaumes où David décrit ses épreuves, ses angoisses. Je disais tantôt qu'il y a des faux frères, des mauvais ouvriers qui se manifestent aussi. Ou encore, il y a des prédicateurs qui ont des mobiles impurs. On n'est pas là pour critiquer. On n'est pas là pour critiquer. On n'est pas là pour juger, plutôt. Et dans Philippiens 1, 17, il dit, « Ceux-là animés d'un esprit de dispute annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas purs, et avec la pensée qui de me susciter quelques afflictions dans mes liens. » Paul était en prison, mais il y avait quand même des frères qui étaient là, qui engendraient des afflictions, qui faisaient mal à Paul. Il y a aussi des faux frères, nous rappelle la parole de Dieu dans 3 Jean 1, 9 à 10, Dieu traite. Qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas, en tenant contre nous les méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire. Il les empêche. Il les en empêche. Il les chasse de l'église. Il y a aussi des frères qui ont des intentions pas bonnes. Mais nous devons avoir le discernement que Dieu nous donne, la sagesse de pouvoir comprendre. Quelle est la volonté de l'homme qui est en face de nous? Oh, je me rappelle, j'étais dans une église, une grande église, et on parlait dehors à plus de 1000 personnes. À un moment, on commençait à accuser les responsables qu'ils avaient volé, qu'ils avaient fait ceci, cela. Et l'église est partie. C'est le samedi en deux. Que certains accusaient les autres d'avoir mal géré. Vraiment, c'est compliqué dans l'église, c'est compliqué. Et les gens qui accusent, c'est les frères. Ce n'est pas les gens du dehors. L'église est partie en vrille. C'est ça. Mais quelques années plus tard, ça fait 10 ans que j'ai quitté cette église. Et là, les responsables, ils sont décédés. Il y a pas mal de problèmes ces derniers temps.
Et on m'a envoyé un poste la semaine dernière où je voyais vraiment des gens pratiquement se disputer dans l'église. On accusait même les responsables qui étaient là de faire n'importe quoi, d'impudicité dans l'église. J'ai dit, oh là, Satan, des fois, il gagne. Hein. Satan, il a une œuvre destructrice. Et c'est ce qu'il fait. Mais si au moins nous avons la sagesse de comprendre ces choses-là, on devait être vraiment, on devait mettre au centre Jésus. Mais oui, si c'est l'autre qui nous amène l'épreuve, et bien aimé, notre propre chair aussi peut nous amener. La parole de Dieu nous dit, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut reconnaître? Parfois nous-mêmes, nous nous faisons du mal. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul nous demande de crucifier la chair. Crucifier la chair. Parce que le vieil homme, il va toujours ressurgir. Même les enfants, les jeunes hommes, je vous dis que vous avez aussi le vieil homme au-dedans des enfants. Et ça, c'est sûr. Le vieil homme, c'est celui de notre nature pécheresse. Il y en a. Donc, il faut crucifier la chair. Ce n'est pas parce que nous passons dans les eaux de baptême hein, le lendemain que c'est clean, c'est fini. Non. Il va venir toujours pour tenter de nous ramener à la case de départ. Ça, c'est l'œuvre de la chair. Notre propre chair, ce n'est pas l'autre, c'est notre chair. La chair ne s'améliorera jamais, ça c'est sûr. Pas du tout. Il faut vraiment, il faut le crucifier. Et souvent, le chrétien se met lui-même dans des impasses, des difficultés, des épreuves. Mais pourtant, avec Dieu, il y a des lois. La loi de la moisson que vous connaissez. La moisson est toujours plus grande que la semence. Qu'est-ce que nous sémons? Qu'est-ce que nous sémons quand nous parlons? Ouais. Un enfant qui a 15 ans, un enfant qui a 16 ans, un enfant qui a 10 ans. Auparavant, qu'est-ce que nous lui disons? Nous lui disons, tu seras ainsi. Voleur, machin, compagnie, tout. On est en train de matraquer. Mais le résultat, nous allons le voir après. C'est ce que nous avons confessé de la bouche. Nous devons faire attention de ce que nous sémons. Dans le mariage, dans le couple, qu'est-ce que nous sémons? Et si le projet n'était pas bon au départ, bien aimé, tôt ou tard, je répète bien, tôt ou tard, cela se révélera qu'il n'était pas bon. Donc nous devons toujours mettre Jésus au centre. La moisson souvent vient sous forme de d'épreuve. Osez dire, ils ont sémé le vent, ils récolteront la tempête. La résistance de Dieu à Dieu provoque les épreuves. Dans les psaumes, psaume 107 nous dit, les insensés, je dis bien, les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. De même, nous, par notre conduite, nous pouvons attiser, nous pouvons attirer les épreuves. Un pasteur qui est mort il y a longtemps disait, il y avait un suédois que Dieu avait appelé à son ministère. Il résista. Il ne voulait pas. Dieu l'appelle. Dieu peut-être t'appelle pour faire quelque chose de la part du Seigneur. Mais tu résistes. Ce monsieur résistait. Malgré la mort de son épouse, malgré la mort de sa fille, il ne voulait rien savoir. Après, il prospéra dans les affaires et pour être débrouillé par son fils. À quoi cela aurait servi? Vers la fin de sa vie, ce mourant d'un cancer, il dit, je suis sauvé, mais je comparaîtrai dans sa présence et rendrai compte pour toute ma vie de désobéissance. C'est fort. Oui, ok. J'ai désobéi. Il y a un jugement à la fin.
Oui, on t'avait demandé de faire ci, on avait demandé de faire ça. Et tu vas rendre les comptes. C'est pourquoi la dernière fois que j'avais partagé mon témoignage, je disais que j'ai vraiment résisté à l'appel de Dieu. Moi, j'ai résisté. Eh bien, il ne faut pas résister parce que celui-là qui vous appelle, il est fidèle. Et il sait pourquoi il vous appelle. Et bien aimé, avant que les épreuves s'abattent en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire attention, nous devons nous repentir et changer. Il ne faut pas résister à la main de Dieu. Il ne faut pas résister à la peur de Dieu. Il faut le laisser nous conduire dans sa volonté. Mais bien aimé, j'avais dit que la cause des épreuves peut venir de l'adversaire. La cause des épreuves peut venir de l'autre. De l'homme. La cause de l'épreuve peut venir de ma propre chair. Mais il y a une troisième cause. La cause de nos épreuves peut venir de la volonté du Père de Dieu lui-même aussi. Il ne faut pas l'oublier. La troisième cause de nos épreuves peut survenir de la volonté de notre Dieu. Parce que l'épreuve pour Dieu, c'est juste un examen, un contrôle. C'est des tests. Ça peut, comme nous passons des tests pendant des examens, parfois c'est oral, c'est écrit. Certaines personnes qui aiment bien passer des tests oraux, d'autres à l'écrit. Mais quand ils sont devant les examinateurs, ils commencent à trembler, commencent à paniquer. Ils disent non, parce qu'il y avait tellement d'examinateurs que j'ai perdu tous mes moyens. Il y a d'autres qui disent, ouais, ceux qui aiment bien passer les épreuves écrites, ils disent, bah oui, devant ma page blanche, j'ai eu un syndrome d'oubli, donc il oublie tout, en fin de compte. Il oublie devant l'épreuve. Ça peut nous arriver. C'est un test pratique de Dieu pour le disciple. Et ce test montre les aspects, va nous montrer les aspects de la personne divine, sa présence, sa fidélité, sa compassion et son secours. Et en fait, de ces épreuves aussi, Dieu nous révèle qui nous sommes, notre cœur, notre caractère. Et nous apprenons à nous connaître. Dieu le permet. Ce qui m'a fait plaisir en lisant un passage hier dans Deutéronome 8, 2 à 3, il est dit, souviens-toi du chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu, qui n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Il a fait humilier son peuple parce qu'il voulait le faire comprendre quelque chose. Que l'homme ne se nourrit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est Dieu qui l'a fait pendant 40 années. Voyez-vous, pendant 40 ans, Dieu est en train de nous faire passer des tests. 40 ans. Et nous, quand on passe un test pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, et c'est fini. Quoi. Tout le monde est au courant que non, nous souffrons. Tout le monde, toute la terre saura que non, c'est fini. Didier, là, il est au bout. C'est le chaos. Mais non, 40 années, le peuple d'Israël
a été malmené comme ça, juste pour qu'il change. Pour qu'il change. C'est pas deux jours. C'est pas trois jours. C'est pas un mois. C'est pas une année. 40 ans. Il tourne. Dieu voulait les amener à être fidèles, qui reconnaissent sa grandeur. C'est pas facile, hein? Pendant, c'est pas facile. C'est pas facile. Les épreuves, je ne peux pas dire le contraire, c'est difficile. Mais, sachant que si nous passons par les épreuves, si c'est Dieu qui les permet, Dieu aussi lui-même nous en sortira. Amen. L'épreuve est souvent notre guide ou une bénédiction aussi. Par l'épreuve, Dieu peut fermer une porte, en ouvrir une autre. Dieu peut ouvrir une porte et fermer. Donc, Dieu va fermer une porte pour nous montrer le chemin à suivre. Ça, je suis sûr, peut-être que ça vous est arrivé. Hein. Mais un pasteur, il a quitté sa Normandie, il voulait voyager pour aller peut-être à une conférence. En chemin, son pneu crève. Là, j'ai dit, bon, mais j'ai encore le temps, je pourrai encore. Il va dans le coffre pour prendre son pneu de secours. Il se rend compte que le pneu de secours était crevé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il téléphone sa femme. Tu sais que j'ai des problèmes, mon pneu a crevé, je veux voir dans le coffre. Désespéré, désemparé. Il arrive à l'aéroport. L'avion a décollé. Quelques heures plus tard, on lui dit, l'avion a crashé. Je ne vous dis pas que vous allez toujours en retard pour que l'avion ne fasse un accident. Non. Mais quelle grâce. Quelle grâce. Lui, pour lui, c'était énervant qu'il puisse avoir cette succession de pannes. Mais il ne savait pas que Dieu savait pourquoi il le faisait. Dieu savait pourquoi. Pourquoi ces pannes? Parce que Dieu savait s'il rentrait, prenait cet avion-là, il mourrait. Qu'il est merveilleux ce Dieu. Amen. Parfois, nous ne comprenons pas les choses de Dieu. Parfois, nous ne comprenons pas les choses de Dieu. Mais Dieu, il est merveilleux. Et Acte 11, 19, il nous dit, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Cilicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant en parole seulement aux Juifs. Mais bien aimé, quand il y a eu ces épreuves, tous les disciples se sont dispersés. Mais c'était voulu, prévu par Dieu, parce que, à partir de ce moment, toute cette contrée, la Crète, de la Grèce, la parole de Dieu est rentrée. Après l'épreuve, c'est vrai que on est plus fort. Si tu n'as pas l'épreuve, mon bien-aimé, comment tu pourrais témoigner la grandeur, la puissance de Dieu? Si tout marche bien aujourd'hui, que tout marche sur les roulettes, comment tu pourras dire aux gens que oui, j'ai vaincu, Jésus a vaincu en moi? Comment? Il faut qu'il y ait des épreuves. On n'en sort que plus que vainqueur. Dans 1 Pierre 5, 10, il est dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus, à sa gloire éternelle, après avoir souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. C'est après l'épreuve qu'on devient ferme, qu'on devient solide. Et moi, je dis toujours, si nous sommes appelés à Dieu, c'est Dieu qui permettra ces moments de détresse, de souffrance, pour que nous soyons des témoins. Parce que c'est autrement dit, ce serait trop facile. Une vie chrétienne sans épreuve, c'est trop facile. Les personnes disent que non, j'ai accepté Dieu et ma vie est tranquille. Jésus le disait, j'ai appris à porter ma croix. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. C'est fou. Nous y sommes. Souffrance. C'est une vie qui est pratiquement sans révélation.
Il y a aussi une preuve, mes bien-aimés, que
Dieu nous donne, les preuves de Morija que nous lisons dans Genèse 2, 12, 22, 1 à 2.
Dieu mit à l'épreuve Abraham et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Là, ça devient compliqué. Mais bien-aimés, sachez que ce qui vous est cher, si vous ne le remettez pas entre les mains de Jésus, si vous ne le remettez pas entre les mains de Dieu, quand la tempête arrivera, les bien-aimés, vous ne serez pas. Isaac, Abraham avait juste un enfant. Et Dieu lui demande d'aller sacrifier cet enfant. Il n'a pas réchigné, il est parti. Mais Dieu qui connaît toutes choses avait prévu déjà. Il voulait voir la disposition de son cœur. Et bien aimé, même tes enfants, tu dois les offrir à Dieu. Ton mari, tu dois l'offrir à Dieu. Ton travail, tu dois l'offrir à Dieu. Pourquoi? Parce que quand l'épreuve arrivera, tu sauras qui ça, qui contrôle. Parce que si lui ne contrôle, ce sera la déchéance totale. Donc il faut savoir que Dieu, quand il nous donne quelque chose, c'est pour que lui, il soit le centre, que lui soit le contrôle, que lui seul dirige. Et c'est pourquoi il veut voir la disposition de notre cœur. Tu as 1 million aujourd'hui, tu commences à flamber. Tu oublies même d'où ça vient encore. Tu as un travail, tu dis que non, mais tu es le centre du monde. Même certaines personnes mettent les enfants, le travail, le centre du monde. Le centre, c'est Jésus. Ce n'est pas tout ce que nous avons. Que Jésus prenne le contrôle. Parce qu'aujourd'hui, tu veux te marier. Mais si tu ne présentes pas, si tu n'amènes pas ton fiancé à Morija, sache que ce sera difficile pour toi. Les épreuves, il y en aura. Et il y en aura les épreuves. Mais comme ce n'est pas Jésus qui est le centre, ça va partir. Bien-aimés, nous devons laisser ce que nous aimons à Dieu. Nous devons laisser tout entre les mains de Dieu. Mais bien, c'est important ce que je dis. Tout ce que nous avons, nous devons les amener à la montagne de Dieu. Tout ce que nous avons. Parce que nous ne savons pas demain qu'est-ce qui peut nous apprendre. Il y a la mort. Il y a ceci, il y a des chômages, il y a des divorces, il y a toutes sortes de choses. Mais si nous n'avons pas ramené tout ça à la montagne de Dieu, nous serons les plus malheureux. Je dis bien les plus malheureux. L'épreuve qui nous vient de notre Dieu peut être aussi une correction, punition, c'est un traitement divin. Quand on a affaire à Dieu. Hébreux 12, 7 nous dit, supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car, quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Parfois, Dieu nous châtie.
Parfois, Dieu rend notre chemin dur. Il nous résiste même. Vous comptez beaucoup, et voici, vous avez peu. Vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Parfois, Dieu peut souffler. Parce que Dieu peut souffler. Dieu peut souffler juste pour vous corriger. Parce que vous devenez plus orgueilleux, parce que vous devenez tête dure. Dieu nous corrige. Dans Juges 13, il est dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Dieu peut nous corriger au travers de nos comportements. Dieu peut nous corriger au travers de nos intentions aussi. Et je crois que vous connaissez, il y a une correction qui est restée pour moi symptomatique dans la Bible, et vous la connaissez, c'est la correction de Jonas. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Et pourquoi on fait une pente? Voilà un monsieur qui sert le Seigneur. On lui demande d'aller à Ninive, lui il va à Tarsis. Ça c'est vraiment l'idée. On lui demande quelque chose, il va faire le contraire de ce qu'on demande. Et Dieu fait souffler une tempête, un typhon. C'est pratique. Oui, c'est un typhon. Et le typhon surnaturel, ça bat sur le bateau. Non pas sur le bateau, dans la cale. Et le monsieur qui avait fui Dieu, il dormait tranquillement. Il dormait tranquillement dans la cale. Tout le monde était agité. On cherche la solution. On jette toutes les prévisions qui étaient dans le bateau pour alléger ce bateau. Lui, il dormait. Quand tout le monde s'affairait à chercher le vaisseau, lui, il dormait. Je n'ai jamais vu une personne pareille. Il y a vraiment des bandades dans la demeure, mais lui, il dort. Et quand on cherche partout, on vient le voir, on lui demande, mais pourquoi? Il dit, je sais pourquoi. Non. Ça, c'est la méchanceté. Il était dans la cale, il dormait. Et puis, il savait pourquoi il y avait la tempête. Il dormait. Et vous savez ce qu'il a dit? Bon, si vous voulez que cela s'arrête, jetez-moi dans l'eau. Conscience, monsieur. Et tout le monde le prend et le jette dans l'eau. Mais comme Dieu voulait l'utiliser, eh bien, mais faites attention. Faites attention, même dans la désobéissance. Dieu savait que non, il avait donné une mission. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une baleine. Il envoie un grand poisson. Le poisson l'avale. Il n'est pas mort. Lui qui voulait mourir, il n'est pas mort. Et après, le poisson va le jeter au bord de la mer. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il repart au point de départ pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Faites attention. Faites attention. Même si aujourd'hui tu es là en train de te battre, mais Dieu, ce qu'il a dit au-delà de toi, ça se fera. La preuve. Je ne sais pas, peut-être que ce matin, il y a une tempête qui souffle dans ta vie. Je ne sais pas à qui on est l'auteur. Je ne sais pas l'auteur de tes épreuves ce matin. Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est les hommes qui sont autour de toi? Est-ce que c'est toi-même parce que tu veux, par tes sentiments? Ou encore, c'est une correction de Dieu? C'est là que nous devons chercher. Des épreuves, il y en aura toujours. Mais qui est l'auteur de tes épreuves ce matin? Qui en est l'auteur? Je ne dis pas souvent que c'est nous, hein? Je ne dis pas ça. Je ne dis pas souvent que c'est Dieu. Je ne dis pas non plus que souvent c'est l'adversaire. Mais je dis, qui en est l'auteur? Et c'est là où nous devons nous arrêter.
Oui, il y a des épreuves. Nous devons, s'il faut se repentir, nous devons nous repentir. Et si c'est des personnes, nous devons demander à Dieu de nous donner la force. Si c'est le diable, nous allons nous cacher entre les mains du Seigneur. Ainsi, si nous sommes armés de la pensée de souffrir, comme qui dit dans 1 Pierre 4, 1, ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché. Et nous devons nous armer de la même pensée. Parce que Dieu nous donne la victoire. Parce que Dieu nous donne la victoire. Nous sommes mentalement préparés pour que nous avançons dans les difficultés. Nous sommes armés. Au travers de la parole de Dieu, nous voyons que Dieu est avec nous. Dieu est au centre. Je n'ai pas parlé, j'ai parlé des enfants de Dieu, les épreuves dans les enfants de Dieu. Je n'ai pas parlé des gens du dehors. Donc, c'est les épreuves que nous pouvons subir. Mais nous devons être mentalement préparés pour pouvoir affronter les épreuves. Et des fois, nous devons revenir vers Dieu parce que nous avons résisté. Nous devons revenir à notre Dieu. Ce matin, peut-être que tu as des épreuves, tu souffres. Ce n'est pas facile les épreuves, hein, je dis. Je vous le confirme, c'est difficile les épreuves. Mais, comme tu dis la parole de Dieu, les épreuves ont une durée bien déterminée. Si cela dure, repartons vers notre Dieu. Pourquoi cela dure? Nous avons vu que les enfants d'Israël sont restés 40 ans. J'aimerais pas que ça fasse 40 ans parce qu'après, je ne sais pas ce que je ferai après 40 ans. Donc, revenons vite à notre Dieu. Parce que notre Dieu qui nous appelait est fidèle. Il est fidèle. Et il sait le projet qu'il a formulé pour tout un chacun de nous. Et il veut que ce projet, que nous soyons de sa gloire, que ce projet se réalise. Que ce projet se réalise. Ne résistons pas à l'appel de Dieu. Ne résistons pas à l'œuvre de Dieu. Mais sachant que notre Dieu, avec nous, nous sommes plus que vainqueurs. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen.